Est-ce qu'il existe quelqu'un parmi nous ce matin qui ne connaît pas ou qui n'a jamais lu le lien fraternel? Si cette personne existe, je vais lui demander de bien vouloir lever la main. Je vois que tout le monde connaît le lien fraternel. Alors, si vous ne le connaissez pas, si vous n'avez pas lu celui de ce mois-ci, il y en a plusieurs à votre disposition à l'entrée sur le comptoir de librairie. Alors, servez-vous, parce qu'ils sont gratuits pour le moment en tout cas. On ne vous dit pas et on ne vous garantit pas que ça sera toujours gratuit, mais en tout cas, il est gratuit. Voilà, je sais à qui je vais l'offrir, alors celui-ci. Tiens, je te l'offre même. Je vous propose de lire ensemble un texte dans l'Ancien Testament. Nous allons lire ensemble, si vous le voulez bien, le texte dans le livre des Juges, au chapitre 1. Nous lirons les versets 1 à 24. Juges, chapitre 1, chapitre 6, pardon, versets 1 à 24. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusque sur Gaza, et ne laissait en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. C'est ainsi qu'Israël fut très malheureux à cause de Madian. Alors, les enfants d'Israël commencèrent à crier à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël commencèrent à crier à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Et voici ce qu'il leur dit. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte. Je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous. Je vous ai donné leur pays et je vous ai dit: je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez jamais voulu écouter ma voix. C'est alors que vint l'ange de l'Éternel. Il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la maison d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Et Gédéon répondit: « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous arrivent-elles? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils nous disent: l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter du pays d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne. Il nous livre entre les mains de Madian. » L'Éternel se tourna vers lui et lui dit: « Va avec cette force que tu as. Délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Gédéon lui dit: « Ah, mon Seigneur, avec quoi vais-je délivrer Israël ? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé, et moi je suis le plus petit dans la maison de mon père. » Alors l'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. » Gédéon lui dit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, alors donne-moi un signe pour montrer que c'est bien toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. » Alors l'Éternel lui dit, « C'est bon, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. » Gédéon entra, prépara un chevreau et fit avec un épha de farine des pains sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot et lui apporta sous le térébinthe et les présenta. L'ange de l'Éternel lui dit, « Prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher et répands le jus. » Gédéon s'exécuta. L'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main, toucha la chair et les pains sans levain. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et le pain sans levain. Et l'ange de l'Éternel disparut. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, lui dit, « Malheur à moi, ô Seigneur éternel, j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. » Alors Gédéon entendit la voix de l'Éternel qui lui dit, « Sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. » Et c'est ainsi que Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel de paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra, qui appartient à la famille d'Abiézer. Que le Seigneur bénisse pour nous la lecture de cette parole. Le livre des Juges suit chronologiquement celui de Josué. Il montre comment l'installation du peuple hébreu en terre de Canaan fut, je crois qu'on peut le dire, laborieuse. Non pas que Dieu ait laissé seul son peuple pour la conquête, mais tout simplement laborieux parce que les tribus, une fois de plus, ont refusé d'obéir aux ordres de l'Éternel. En effet, lorsque on lit les deux premiers chapitres du livre, on constate sans grands efforts que c'était à celui qui en faisait le moins. Moins on en faisait pour l'Éternel, mieux on se portait. Ainsi, vous avez des mentions tout à fait intéressantes. Pour ceux qui lisent l'hébreu, je les invite à le faire, parce que l'hébreu change un petit peu dans l'orthographe, et on n'a pas le temps ce matin, mais c'est assez risible quelquefois. Vous avez des expressions comme « ne chassa point ». Au chapitre 1, la conséquence de leur refus de combattre va se faire sentir, va ne pas se faire attendre, et Dieu avertit que leur vie, à partir du moment où ils refusent, va être une vie compliquée, une vie qui va être difficile. À partir du chapitre 3, on constate que tous les récits comportent un même mouvement. Israël oublie l'Éternel. Israël entre dans l'idolâtrie. Israël est asservi à un peuple étranger à cause de son péché. Et de temps en temps, on est étonné parce qu'on lit un réveil. Un réveil du peuple d'Israël, tout simplement à travers d'un homme appelé par Dieu, et qui les délivre d'une nation. Puis, on se dit, mais là, ils vont comprendre. Là, ils vont suivre l'Éternel. Ben, patatras ! Quelques versets après, ils abandonnent l'Éternel. Ils oublient l'Éternel. Puis c'est une nouvelle fois la servitude. Et puis Dieu, dans sa grâce, envoie un autre juge qui stimule encore une fois le peuple à combattre le péché, à résister. Et on voit dans le livre des juges que se succède à la tête du pays des juges. Alors il y a Barak, il y a Déborah qui va faire un travail extraordinaire, il y a Gédéon, il y a Jephté, il y a Samson. Alors pour ceux qui viennent d'avoir un garçon ou une fille, voilà des prénoms que vous pouvez donner à vos enfants. Je ne cite que les plus connus d'entre eux. Juste vous dire que si vous appelez votre gamin Samson, il fait au moins 4 kilos. Hein. S'il fait 1,5 kg, c'est pas la peine de l'appeler Samson. En tout cas, l'auteur du livre, à la fin de son ouvrage, nous donne une explication quant à cette dégradation spirituelle. Et l'explication est très simple. En ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Et chacun faisait ce qu'il voulait. Le pays se trouve, au temps de Gédéon, sous la domination de Madian. Nous venons de le lire. Alors que Gédéon vaque à ses occupations, il est surpris et arrêté par l'apparition de l'ange de l'Éternel. Alors, une chose que vous savez ou que vous ne savez pas, à partir d'aujourd'hui, 28 juillet 2013, à 11h09 du matin, vous saurez que l'ange de l'Éternel dans l'Ancien Testament, c'est une christophanie, c'est-à-dire une apparition de Jésus-Christ avant l'heure. C'est l'ange de l'Éternel, égale Jésus-Christ. L'ange de l'Éternel prend la forme d'un voyageur muni d'un bâton. Il s'arrête pour se reposer à l'ombre d'un térébinthe. Et le texte nous dit en hébreu qu'il se remet de ses efforts. Geste trop banal pour attirer l'attention, lui permet d'observer à loisir celui à qui il doit transmettre un message de la plus haute importance. Il est assis sous un térébinthe, le bâton à la main, et le texte nous dit qu'il regarde attentivement Gédéon. Et je voudrais que nous regardions d'un peu plus près le dialogue. Au nombre de trois, il y a l'ange de l'Éternel, il y a Gédéon qui dialogue, et vous allez le constater, il y a de quoi pour nous réfléchir. Il y a, je viens de le dire, trois dialogues. Premier dialogue, c'est les versets 12 à 14. Ce qui va faire réagir Gédéon, c'est la première parole de l'ange de l'Éternel. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Voilà qui laisse présager bien du succès. Qui ne souhaiterait pas parmi nous être appelé par Jésus, vaillant héros? J'eus aimé, quand j'ai reçu ma maîtrise de théologie, entendre la voix de Dieu venue du ciel me dire « Maintenant, va, vaillant héros !» Ce ne fut pas le cas. Mais au lieu de prendre la parole comme un encouragement, dans ce contexte difficile, on vient de le lire, d'occupation madianite, Gédéon donne à l'Éternel une réplique. Et si vous lisez cette réplique, ce n'est pas la moindre. Regardez le verset 13. « Oh, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, qu'il nous explique pourquoi toutes ces choses nous arrivent. Où sont tous les prodiges de nos pères? Quand ils nous racontent que l'Éternel nous a fait monter du pays d'Égypte, maintenant il nous abandonne. Maintenant l'Éternel nous a livrés aux mains des Madianites. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, et ce que vous pouvez noter, c'est que Gédéon attribue les malheurs de son peuple à Yahweh, à Dieu, coupable selon lui d'avoir négligé son devoir de protecteur à l'égard de son vassal et d'être resté sourd à son cri de détresse. L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Comment se fait-il qu'aujourd'hui il n'agisse pas? Madian n'est rien en comparaison à la puissance égyptienne. Et l'argumentation de Gédéon, me semble-t-il, a un très bon écho aujourd'hui. Que de fois n'entendons-nous pas dire « Ah, si Dieu existait, il n'y aurait pas de guerre, il n'y aurait pas de chômage, il n'y aurait pas de difficultés, il n'y aurait pas de difficultés sociales, il n'y aurait pas de difficultés économiques. » C'est oublier un peu vite que Dieu a laissé l'homme libre de ses choix et que ce dernier n'a pas fait le bon choix. Et comme il n'a pas fait le bon choix, il en paie les conséquences. Il me semble que c'est trop facile de remettre sur Dieu nos erreurs. Gédéon affirme que l'Éternel les a abandonnés. Parce qu'en hébreu, c'est « l'Éternel nous a laissés tomber ». Ce n'est pas une question « l'Éternel nous a-t-il abandonnés ?» Non, c'est « l'Éternel nous a abandonnés ». Alors que ce sont eux qui ont abandonné l'Éternel. C'est pas pareil. Alors au lieu de faire son mea culpa, notre génération refuse de constater son échec. Et puisqu'il faut à tout malheur une cause, comme il faut un bouc émissaire pour faire porter la responsabilité qu'elle ne veut pas prendre sur elle-même, c'est assez facile, ma foi, de remettre cela sur Dieu. C'est la faute de Dieu. Nous, on n'y est pour rien. Vous savez, pour ceux qui ont des parents, tout le monde en a, je suis bête, pour ceux qui ont des enfants, je voulais dire, ils me comprendront assez facilement. Moi, j'ai eu 3 filles, quand il y avait un problème, et je disais, bon, ça suffit maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est pas moi, c'est elle. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est pas moi, c'est elle. C'est jamais la faute de l'autre. C'est toujours les autres. Mais c'est pas moi. C'est toujours la faute des autres. Sartre disait bien, l'enfer, c'est les autres. Mais comme Gédéon, nous chrétiens, nous Église, il peut nous arriver de dire la même chose. Et je vais me permettre de les reprendre en les adaptant. Vous le voulez bien? Oui, merci. Si l'Éternel est avec nous, qu'il m'explique pourquoi ma vie chrétienne ne va pas. Si l'Éternel est avec nous, qu'il m'explique pourquoi mon Église est si faible, si fragile. Si l'Éternel est avec moi, qu'il m'explique pourquoi j'ai tant d'épreuves, pourquoi j'ai tant de difficultés. Où sont les miracles? Où sont les miracles dont les pasteurs de l'Église d'Ozoir nous parlent, ces miracles des actes des apôtres? L'Éternel ne nous a-t-il pas sauvés? Ne nous a-t-il pas délivrés de l'esclavage du péché? Et maintenant, il nous laisse entre les mains de l'ennemi. Qu'est-ce que tu fais, Seigneur? Ah! Ah, si j'étais l'Éternel, je ferais autrement. Parce que quand on dit à l'Éternel, quand on demande des comptes à l'Éternel, en disant « Mais pourquoi, Seigneur ? Mais pourquoi ?» C'est en fait lui dire « Mais moi, à ta place, j'aurais pas fait comme ça. » Nous sommes, frères et sœurs, sur un terrain glissant. Et le terrain glissant sur lequel nous sommes va nous faire tomber très facilement. Et la question que j'aimerais poser ce matin est à chacun de répondre. Quelle image as-tu de Dieu ? Quelle image as-tu de Dieu ce matin ? Dans notre texte des juges, on constate que l'ange de l'Éternel n'argumente pas. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et c'est là-dessus que je voudrais m'arrêter maintenant. L'ange de l'Éternel n'essaie pas d'argumenter pour prouver à Gédéon ceci ou cela. La réponse de l'ange de l'Éternel, elle est extraordinairement surprenante et elle tombe juste à propos. Voilà la réponse de l'Éternel. Je lis. Va avec la force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. Elle te suffira. Du moment que c'est l'Éternel qui t'envoie, cela suffit. Qu'importe ce que tu penses sur le passé, ce que tu crois de la justice de Dieu, qu'importe. Qu'importe ce que tu crois. Qu'importe ce que tu vis. L'important, c'est que l'histoire commence avec toi. J'ai bien dit avec toi. J'ai pas dit avec l'autre, parce que c'est bien connu. Pourquoi les autres ? Je parle pas des autres, je parle de toi. L'important, c'est que ça commence avec toi. Toi, avance. Toi, fais face à l'ennemi avec ce que tu connais de l'Éternel. Et ce qui va être ta force, et ce que tu ne soupçonnes même pas une seconde, c'est que le Dieu trois fois saint, il va marcher avec toi. Alors n'attends pas de tout comprendre pour te lever. Il y a tant de chrétiens aujourd'hui qui disent « Je veux bien me lever, mais avant de me lever, il faut que je comprenne. » Quelqu'un m'a dit cette semaine dans mes visites, parce que je continue le porte-à-porte l'après-midi, quelqu'un m'a dit « Je suis prêt à croire si je comprends la Bible. » Oh, je la comprends pas. Il y a des fois où je comprends rien. Mais moi, très franchement, si j'attends de comprendre tout le mécanisme de ma voiture pour la conduire, j'ai une bonne nouvelle pour vous, je ne pars pas en vacances. N'attends pas de tout comprendre de l'Éternel, parce que tu ne le saisiras jamais. Il est mille fois trop grand pour que tu puisses le comprendre. N'attends pas, parce que si tu restes assis, tu vas continuer à te lamenter sur ton triste sort. Et ce n'est pas demain que les Madianites te laisseront tranquille. Ce n'est pas demain que l'ennemi te laissera tranquille, crois-moi, il ne te foutra. Pardon d'être mal poli. Je sais que c'est un mot que j'aurais pas dû dire, mais je veux que ça soit très fort. Alors, pardon, mille fois pardon, je ne le répéterai plus, mais laisse-moi te dire que le diable ne te foutra jamais la paix. Et c'est pas demain qu'il arrêtera. Crois-moi. Dieu n'est-il pas en train de nous dire, à travers de Gédéon, d'avancer avec la force qu'il nous donne ce matin ? Force qu'il va utiliser, force qu'il va augmenter lui-même, mais force qu'il donnera et qu'il augmentera en son temps et en son heure. Il y a des moments dans la vie où il faut prendre des risques, prendre ses responsabilités, se lever, retrousser les manches, dans une démarche de foi. Et puis, il y a le deuxième dialogue. Je vais aller un tout petit peu plus vite, si vous me le permettez. C'est les versets 15 et 16. Et dans ces versets, Gédéon réagit une seconde fois. Et sa réplique vient du mot que l'ange de l'Éternel vient de prononcer. Force. Seigneur, tu me parles de force. Celle que je suis censé avoir, mais que je n'ai pas. Alors, puisque je ne l'ai pas, comment veux-tu que j'aille ? Et on voit dans ce texte que l'argumentation de Gédéon nous renvoie à quelques autres cas similaires. Exemple. Tout le monde, évidemment, pense au même personnage que moi, Moïse. Qui suis-je pour aller vers Pharaon ? Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui a la parole facile, moi. Alors envoie un autre, mais pas moi. Saul, ne suis-je pas Benjamite, l'un des plus petits de la tribu d'Israël ? Ma famille n'est pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin. Je ne suis rien, Seigneur. Jérémie, ah Seigneur, moi je ne sais pas parler. Je suis comme un enfant. Ma langue, elle ne marche pas. Gédéon, lui aussi, va se trouver une bonne excuse. Ma famille, mon clan, c'est la plus pauvre de Manassé. Il fait comprendre à l'Éternel qu'il ne dispose pas des ressources suffisantes pour assumer un commandement militaire du plus haut niveau. Pas d'argent pour payer une armée. Il sous-entend la suggestion de faire participer tout Israël à cette action, car c'est bien connu, l'union fait la force. Moi, je suis le petit dernier. Je suis le plus petit. Et en tant que plus petit, je n'ai pas l'autorité. Qui ? Peux-tu me dire qui va me prendre au sérieux ? Quelle expérience est-ce que j'ai pour commander des hommes au combat ? Alors, s'il te plaît, aie un peu de sagesse. Hein ? Gédéon est trop petit. Bref, il y a un dialogue. Et on s'aperçoit que Gédéon va très très vite se trouver à court d'arguments. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'au bout d'un moment, l'Éternel va lui fermer la bouche en lui rappelant une vérité. Je serai avec toi. Alors si, comme Gédéon, nous nous rendons compte de notre manque de force, rappelons-nous que le Seigneur agit toujours à travers les personnes faibles. Et rappelons-nous ce que nous dit Paul. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. La faiblesse, à mes yeux, est une force aux yeux de Dieu. Parce que ma faiblesse produit justement la foi et la dépendance de Dieu. Je suis faible, alors il n'y a que toi, Seigneur, qui peux intervenir. Mais si mon langage se contente à dire « moi, je suis fort, je connais la parole de Dieu, je connais le grec, je connais l'hébreu, j'ai 30 ans d'expérience et je sais ce que j'ai à faire », il est évident que je n'ai pas besoin de l'Éternel pour le faire. À l'inverse de la force, qui oublie un peu vite qu'elle a des limites, il faut que nous nous tournions vers Dieu qui va nous rendre capables de notre faiblesse. Je ne sais pas si je vous ai raconté ma première prédication. Oui ou non ? Non, alors je vais vous la raconter. Fier de ma maîtrise en théologie, je me suis lancé dans une bonne prédication. Et nous devons, frères et sœurs, conscientiser la dialectique de notre catéchèse. Et ça a duré 25 minutes. À la fin de ma prédication, j'étais comme tous les dimanches à la sortie, en train de serrer la main des gens, et arrive une petite dame qui est maintenant près du Seigneur, qui était très âgée, qui me serre très fort la main, et qui me dit « Monsieur le pasteur, merci. Merci pour votre prédication, c'était formidable. J'ai rien compris, mais ça devait être bien. » Puis elle est partie. Et ce jour-là, j'ai pris une claque, parce que je me suis dit « Jean-Claude, si c'est ça ton ministère pastoral, alors retourne derrière tes appareils photo. » Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est donc, frères et sœurs, au travers de la faiblesse que Dieu va intervenir contre Madian. Peut-être pour mettre encore plus la foi de Gédéon à l'épreuve. En effet, regardez le texte. L'ange lui propose d'agir par l'intermédiaire d'un petit nombre. Alors, on n'a pas eu le temps. Moi, je propose qu'un jour, un culte dure de 10h jusqu'à 18h. Je ne sais pas s'il y aura beaucoup de monde, mais ça serait intéressant parce que regardez ce que l'Éternel va lui dire au chapitre 7, verset 2. L'Éternel lui dit « Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux et je ne te livrerai pas Madian entre tes mains parce que le peuple pourrait en tirer gloire contre moi et dire « C'est moi qui ai délivré le peuple parce que nous étions nombreux. » Alors, continuez la lecture, hein. Vous allez voir que c'est extraordinaire. Et l'Éternel va lui dire, vous êtes trop nombreux, il faut un petit nombre. Et Gédéon va dire, mais ça ne va pas, Seigneur, on ne va pas y arriver. Vous savez, c'est l'histoire de, combien sont-ils? 20 000, et nous, 2, ok, encerclons-les. C'est un peu ça, c'est un peu ça. Alors, notre communauté, en tant qu'Église, est faible. Nous sommes faibles, mais cela ne veut pas dire pour autant que nous sommes affaiblis spirituellement. Il m'est arrivé un été d'aller en vacances, comme tous les ans, et comme tous les ans, de me rendre incognito dans un culte. Et quand je suis arrivé dans ce culte, c'est facile, hein, on pouvait compter sur les deux doigts de la main, on était 8. Les enfants, Joël et moi, y compris. Et le pasteur a prêché sur la force. Et je me souviendrai toujours qu'il a dit « Ce matin, nous sommes 8, mais à nous 8, nous sommes une véritable bombe atomique, parce que nous avons la puissance de Dieu. » J'ai beaucoup aimé ça. Parce qu'il nous semble que nous, plus nous serons nombreux, plus ça sera chouette. Et bien, ce n'est pas ce que dit l'Éternel. Il y a du potentiel en chacun de nous. Et l'Éternel va utiliser chacun de nous. Alors, je redis, parce que ça me semble important, l'Éternel va utiliser chacun d'entre nous. Alors il ne faut pas qu'il y ait une seule personne parmi nous qui pense, mais moi, je suis rien, moi. Je suis tout petit, moi. J'ai même pas fait d'études, moi. Moi, l'Éternel ne voudra pas. L'Éternel veut de toi. C'est ensemble. Ensemble, frères et sœurs. Il y a du potentiel en chacun de nous. Personne n'est trop âgé, personne n'est trop jeune pour combattre. Ce que l'ennemi cherche, ce n'est pas de nous affaiblir. Ce que l'ennemi cherche, c'est de nous faire croire que nous sommes faibles. Et puis je termine, pardonnez-moi, je vais vous demander juste quelques minutes de plus, parce que je n'ai pas terminé. Troisième signe, dialogue. C'est les versets 17 et 18, et je termine. Gédéon est, semble-t-il, confondu par les arguments qu'il entend. Mais on remarque qu'il ne tombe pas pour autant dans l'euphorie. Tout en voulant obéir, Gédéon ne veut pas se tromper. C'est légitime. Un signe. Seigneur, donne-moi un signe et j'agis. Je veux que tu me montres que c'est bien toi qui me parles. Je suis prêt. Je suis OK. Tout ce que tu viens de me dire, c'est enregistré. Pour reprendre ton dialogue, 5 sur 5. J'ai compris. Mais je t'en prie, Seigneur. Je veux un signe. Alors je dis en tant que pasteur, parce qu'il y a beaucoup de bêtises qui ont été dites dans les prédications par rapport au signe de Gédéon. Moi, je dis que cette manière de faire est honnête. Je dis que cette manière de faire est honnête. Et le Seigneur honore l'honnêteté. Il connaît et il lit dans le cœur de Gédéon. Et ce dernier n'essaie pas de gagner du temps. Il est sincère dans sa démarche. Sa demande, c'est le dernier recours. Le dernier recours d'un homme propulsé malgré lui sur le devant de la scène. Il veut une confirmation de son intuition. Un signe, Seigneur, que c'est toi qui me parles. C'est-à-dire que tu es réellement Dieu comme tu me le dis. Ce que Gédéon croit à ce moment-là, et l'hébreu nous le fait bien comprendre, c'est qu'il a peur d'avoir vécu ce que l'on appelle une hallucination. Ne t'éloigne pas jusqu'à ce que je revienne, je t'apporte mon offrande, je la dépose devant toi. Et si le visiteur est capable de lui donner un signe, il doit recevoir les honneurs dus à son rang. Et son offrande signifiera aussi son acceptation à la mission. Je tiens à dire toutefois que ce domaine reste particulier, voire l'exception qui confirme la règle. Demander un signe ou demander une confirmation n'est pas un péché. Mais attention de ne pas aller trop loin. L'idée ici, c'est de tenter Dieu. Or, on ne doit pas tenter l'Éternel. Je pense qu'un signe peut être demandé lorsqu'il y a une décision à prendre, avec des implications en conséquence. Quels que soient nos arguments en face de la parole de Dieu, soyons honnêtes vis-à-vis de Dieu. Alors, je termine en disant, n'oublions pas notre Madian. En tant qu'enfant de Dieu, je rappelle que nous sommes en guerre, une guerre spirituelle. Et si vous croyez que la foi est le passe-droit pour une vie tranquille, sans épines, sans problème, alors je vous invite à relire votre Bible. Le disciple n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont haï, ils vous haïront aussi. Ne sous-estimons pas l'ennemi. Allons-y, continuons avec la force que l'Éternel nous donne. Amen. Je t'en prie, vas-y.